Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et il le supplie instamment. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui et la foule le suivait. Et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvé. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et demandait, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent, « Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché ?» Mais lui regardait autour, tout autour, pour voir celle qui avait fait cela. Alors, la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour dire à celui-ci, « Ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître ?» Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, « Ne crains pas, crois seulement. » Il ne laissa personne l'accompagner, sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, « Pourquoi cette agitation et ces pleurs ? L'enfant n'est pas morte, elle dort. » Mais on se moquait de lui. Alors, il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis, il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, « Talitha koum », ce qui signifie, « Jeune fille, je te le dis, lève-toi. » Aussitôt, la jeune fille se leva et s'est mise à marcher. Elle avait, en effet, 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur. Et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis, il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole du Seigneur. Nous continuons à parcourir l'histoire du roi David et on sait qu'à la fin de son règne, il y a eu beaucoup de tensions avec ses enfants, entre autres son aîné Absalom, qui en fait voulait aussi prendre le règne, le siège de son père.
Et il s'est mis en conflit, en guerre pratiquement avec son père. Et là, c'est le père qui poursuit son fils hein, avec son armée. Et comme le dit le texte, le fils va être attrapé, va être tué. Mais ce qui est frappant, c'est de voir que David, quand on lui apprend que son fils vient de mourir, lui qui voulait terminer avec cette sécession, si on peut s'exprimer ainsi, et il devient tout triste. Alors comme un père, comme une mère devant la mort de son fils, de son enfant, eh bien, il dit, écoute Salomon, Absalom, c'est moi qui devais mourir à ta place. Comment ça se fait que tu meurs? Alors il est devenu tout triste. Il a commencé à pleurer. Et ceux qui étaient avec lui, la garde, les gens de l'armée se sont rendus compte. Alors pas de célébrer la mort de celui qui était récalcitrant, ils sont entrés aussi en deuil parce que le roi était triste. Il regrettait le départ de son fils. Il me semble que David nous donne aussi une leçon ici. Devant toute cette tension-là, ce conflit, quand arrive ce mal-là, le décès, eh bien c'est l'amour qui prévaut. C'est l'amour qui devient la première valeur sur laquelle il s'accroche. Il oublie les défauts de son enfant, il oublie son esprit de révolte, mais ce qu'il voit, c'est la perte d'un être cher. Et il devient tout triste, il met toutes ces tensions-là de côté, parce qu'il est prêt même à mourir à la place de son fils. Quand on meurt à la place de quelqu'un, c'est qu'on met ses intérêts de côté. Et on ne regarde que les intérêts de l'autre, de la personne pour laquelle on donne sa vie, de la personne pour laquelle on veut mourir. Et c'est ce que ressent David face à la mort de son fils. Eh bien, nous savons très bien que dans notre foi, nous savons que Jésus est mort pour nous. Jésus est mort pour chacun, chacune d'entre nous. Alors en mourant pour chacun, chacune d'entre nous, Jésus nous donne la vie. Il met de côté ses propres intérêts et il relève les nôtres. Il met de côté sa vie et il nous donne la vie éternelle. Il met de côté le règne qu'il égalait à Dieu. Il se fait homme, il devient un verbe incarné pour que justement nous apprenions à nous réconcilier avec Dieu. Il se donne, il meurt pour nous, pour nous relever, pour que nous soyons relevés, pour que nous entrions dans la vie éternelle. Alors finalement, cette manière de vivre devient la ligne directrice de toute éthique chrétienne. Parce que pour nous, c'est quoi vivre, c'est quoi l'amour? C'est chercher l'intérêt de l'autre et s'oublier soi-même. C'est être en mesure de faire don de sa personne pour que l'autre subsiste, l'autre reçoive ce qu'il désire davantage. C'est finalement mourir pour que l'autre se relève, pour que l'autre vive. C'est cela l'amour chrétien. Je regarde dans l'évangile d'aujourd'hui que nous connaissons très bien, un long texte qu'on a lu ce matin. Alors on a deux signes de puissance de notre Seigneur, deux miracles. D'abord, il s'agit de cette femme-là qui a souffert longtemps et qui n'avait pas d'issue pour sa maladie et pour son problème de santé. Alors elle s'est dit, non, moi là, je vais toucher Jésus et je vais guérir. On raconte dans le livre de Lévitique que dans le temps, quand on offrait les offrandes qu'on appelle les prémices, quand tu les offrais dans le temple, ça devenait des offrandes sacrées. Tout ce qui touchait l'offrande sacrée était purifié parce qu'il y avait une puissance, une présence de Dieu. Alors on peut comparer cette philosophie-là, cette perception, on peut la voir dans ce que ressentait cette femme qui était malade. Et c'est dit, si je touche cet homme sacré, même si moi je suis impur, je suis malade, eh bien une force est en lui. Et cette force-là peut me guérir. C'était la foi de cette femme. Alors, dans sa simplicité, elle a touché la frange du manteau de Jésus et elle en est guérie. Et moi, ce que j'aime, c'est quand le Seigneur commence à demander, mais qui est ici, qui m'a touché? Elle, toute tremblante, dit le texte, elle lui avoue, elle lui dit toute la vérité. À la place d'être réprimandée, comment ça se fait que tu oses me toucher? Toi, tu es impur, c'est quoi ça, cette manière-là? Il dit, va, ta foi t'a sauvé, tu es guéri de ton mal. Voilà encore une attitude de notre Seigneur qui cherche à relever, qui cherche l'intérêt des personnes, qui veut que les personnes qui l'entourent retrouvent le bonheur, qu'ils puissent se guérir physiquement et même à l'esprit spirituellement. Le dernier miracle, en fait, moi je me dis, la résurrection de la fille de Jaïr, je me dis en fait, c'est comme ça que Dieu voit notre mort. Quand nous mourons, le Seigneur nous dit dans notre foi, tu n'es pas mort, tu dors. Alors c'est lui qui vient nous réveiller. Il vient nous réveiller. Et quand nous ouvrons les yeux, nous nous sommes surpris de nous retrouver dans l'autre monde, le monde de l'éternité. Alors nous dormons en fermant les yeux de ce monde-ci. Et quand le Seigneur nous réveille, comme il a réveillé la fille, et on est chez lui, on est dans le paradis. Pour Dieu, on ne meurt pas, on dort. Parce qu'il nous a créés pour la vie éternelle. Alors ce geste de Jésus est une proclamation de la vie éternelle, est une profession de notre foi en la vie, est une profession de notre foi en cette vie que Dieu nous a donnée au baptême et cette vie qui n'a pas de fin. Parce que si nous vivons en communion avec Dieu, la vie éternelle, ce n'est pas demain, la vie éternelle commence déjà maintenant. Et on est en pleine vie éternelle et le jour où nous fermons les yeux, eh bien ça sera tout simplement un passage d'un monde à l'autre. Que l'Eucharistie de ce matin vienne raffermir notre foi et nous apprendre à être des témoins du Jésus vivant aujourd'hui. Amen.